les jardinières.
C'est parti pour un nouveau samedi matin ensemble dans les jardinières. Bonjour Léo.
Bonjour Noélie.
Et bonjour à notre invité du jour, Jordi Gonzalez. Vous êtes horticulteur au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour Léo, bonjour Noélie.
Et merci à vous d'être branchés sur RJB, RTN ou RFJ. Le monde végétal sous toutes ses formes, c'est l'apanage des jardinières le samedi de 7h à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Avec vous, Jordi, on va parcourir l'année comme on parcourt un sentier, saison après saison, pour découvrir ce que la nature nous offre à manger juste sous nos pieds. Comme simple mise en bouche, Jordi, qu'est-ce qu'on appelle exactement une plante sauvage comestible et qu'est-ce qui la distingue d'une herbe ordinaire au bord du chemin ?
Alors, c'est tout simplement une plante dont on peut consommer certains organes tels que les fleurs, les feuilles, les tiges, les fruits ou même les racines. Dans certains cas, il y a tout qui est consommable, dans d'autres, une seule partie de la plante est consommable. Il peut arriver qu'on doive la préparer avant de la consommer pour en ôter les toxines. C'est le cas, par exemple, des égopodes qu'on devrait cuire avant de manger pour enlever les toxines qu'il y a à l'intérieur. Puis il se peut qu'une période soit plus propice pour la cueillette, pour détection des questions de toxines aussi ou des questions de préservation de l'espèce.
Merci Jordi, vous restez avec nous jusqu'à 8h pour répondre à toutes nos questions, mais aussi à celles de nos auditrices, de nos auditeurs. Vous pourrez nous appeler en fin d'heure et parler en direct avec notre invité. Ça se passera comme toujours au 0 901 70 20 20. Si vous préférez nous envoyer un SMS, c'est aussi possible en tapant le mot « jardin » au début de votre message. Vous laissez ensuite un espace, puis vous posez votre question et votre nom que vous nous enverrez au 939. Vous pouvez aussi nous poser votre question directement via le formulaire sur notre site avec la possibilité de joindre une photo.
7h, 8h, les jardinières.
Et nous sommes en compagnie de Jordi Gonzalez, horticulteur au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Et ce matin, on s'intéresse aux plantes sauvages comestibles. Jordi, on commence par le début du calendrier, le printemps.
Et oui, puisque c'est là que les premières plantes sauvages comestibles arrivent. Alors pour quelqu'un qui débute, quelles sont les trois plantes les plus simples à reconnaître au printemps, celles avec lesquelles on ne peut vraiment pas se tromper?
Alors, on peut trouver très facilement l'ortie, le plantain lancéolé ou le pissenlit. Pour la première, il y a d'autres plantes qui sont similaires mais qui appartiennent toutes à la même famille. Les lamiacées, là on a peu de chances de tomber sur une plante toxique, il n'y en a tout simplement pas dans nos régions. Pour ce qui est du plantain lancéolé, un peu moins connu, il est très facile à reconnaître une fois qu'on sait à quoi il ressemble. C'est un peu la feuille a un peu une forme d'épée comme ça et puis comme un accordéon qui est ouvert. Ensuite, on a le pissenlit qui est une mauvaise herbe par excellence et là je pense que tout le monde connaît et a déjà joué une fois dans son enfance à souffler sur les fleurs fanées.
On va commencer notre voyage culinaire avec l'ail des ours. Aujourd'hui, on en entend parler partout, on en voit partout, mais c'est aussi l'une des plantes avec lesquelles il y a le plus de confusion dangereuse. Concrètement, quels sont les signes qui ne trompent pas?
Alors effectivement, on peut le confondre avec le muguet qui lui est très toxique. Les signes qui ne trompent pas, on peut commencer par l'odeur. Il sent fort l'ail alors que le muguet non. D'un point de vue plus botanique, les feuilles sont très différentes. L'ail des ours a des feuilles fines, brillantes sur le dessus, mates sur le dessous. Et une plante donne une feuille. A contrario, le muguet, lui, a des feuilles qui sont plus épaisses. Elles sont mates sur le dessus et brillantes sur le dessous. Et puis, on va trouver deux feuilles par plante. Le mieux est d'aller en forêt pour les comparer et ils poussent plus ou moins à la même période. Et puis une fois que la comparaison est faite, on peut les reconnaître. C'est un jeu d'enfant un peu.
Jordi, une autre grande classique qui arrive ensuite, c'est l'ortie. Hein. Tout le monde la connaît, tout le monde s'en méfie, mais tout le monde n'ose pas la cuisiner. Alors comment on la cueille sans se piquer? Et surtout, comment on choisit la bonne ortie au bon moment pour que ce soit vraiment bon?
Alors pour la cueillir sans se piquer, rien ne vaut une bonne paire de gants. Mais pour les plus téméraires, on peut aussi la cueillir à main nue en prenant des précautions et tout ça sans se piquer. Il faut simplement la caresser dans le sens du poil en la cueillant. Pour la période, on va privilégier le printemps avant la floraison et prendre des jeunes feuilles. Elles sont moins amères, elles contiennent moins de minéraux qui sont difficiles à évacuer par notre corps. Pour la petite anecdote, on peut même la manger crue, il faut juste bien la plier, la malaxer pour casser ses poils urticants et éviter de finir avec la bouche et la trachée en feu.
Toujours au printemps, Jordi, il y a ces plantes plus discrètes mais hyper utiles comme le plantain, l'oseille, les gramiens ou les dents de lion, les jeunes pousses de pissenlit. À quoi on doit faire attention pour les reconnaître sans faux pas et quels usages simples vous recommandez pour commencer? Manger cru, cuit ou alors une petite infusion?
Alors, pour commencer avec les gramias ou dents de lion, comme on dit à Neuchâtel, la reconnaissance elle est assez simple, j'en ai parlé avant. L'idéal, c'est de récolter les feuilles avant la floraison, elles sont bien meilleures à ce moment-là. Les feuilles, elles se mangent crues en salade ou cuites dans des soupes, par exemple. Les fleurs, elles sont parfaites pour faire un sirop qui a un goût qui se rapproche du miel. Pour l'oseille, on va chercher des grandes feuilles vertes claires, brillantes. Son nom latin, c'est rumex. Donc ça, c'est un peu un terme que tout le monde connaît. Ces feuilles, elles ont un goût très acide. On va la manger plutôt cuite. Mais moi, je la trouve aussi bonne crue. Faut juste éviter d'en abuser crue parce qu'elle est riche en acide oxalique. Cela dit, elle a aussi des vertus médicinales, cette oseille. Et puis pour le plantain, on va récolter le plantain l'océanlais qui est reconnaissable, comme j'ai dit avant, à ses feuilles en forme d'épée, un peu comme un accordéon déplié.
Les jardinières.
Dans les jardinières, ce matin, on est avec Jordi Gonzalez, horticulteur au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Et nous parlons des plantes sauvages comestibles. Si on s'aventure dans cette période du début de l'été, quelles sont, selon vous, Jordi, les plantes à absolument goûter au moins une fois, soit pour leur saveur unique, soit pour leur histoire? On pense notamment à la bourrache, le trèfle, le lierre terrestre, la menthe ou encore le thym sauvage.
Alors, il faut absolument goûter le lierre terrestre, à ne pas confondre avec le lierre grimpant, il ne partage que le nom. Le lierre terrestre est utilisé depuis le Moyen-Âge pour aromatiser et conserver la bière, par exemple, mais aussi pour ses vertus médicinales. On peut l'utiliser en tisane, en sirop, en salade ou comme condiment frais, car une fois séché, il perd son goût. Les fleurs, elles, peuvent décorer des bons petits plats que vous concocterez pendant l'été, comme un poisson au barbecue ou d'autres choses. Pardon. La fleur de trèfle aussi, elle a un goût qui est très sucré, très apaisant. On peut utiliser ses jeunes feuilles en salade ou avec du fromage frais. Les feuilles plus âgées, elles doivent être cuites comme des épinards. Et puis après, on pourrait parler de la bourrache, qui a des fleurs qui apportent des vraies touches de couleur à nos salades. Et on peut consommer les feuilles qui sont jeunes de préférence.
Ah bah, j'ai pas déjeuné, ça donne faim tout ça, Jordi. Donc l'été, le début de l'automne aussi, c'est le festival des fruits, hein, mûres, fraises, framboises, baies de cornouiller, j'espère que je le prononce correctement, baies de genévrier. Comment est-ce qu'on reconnaît une baie parfaitement mûre et quelles sont leurs utilisations les plus savoureuses?
Alors pour moi, c'est là que ça commence à me donner faim. Mais...
avec vos trèfles et le fromage, moi, ça,
ouais, c'est
ça m'a parlé.
En mélangeant les fraises aussi. Non, alors pour les fraises, les framboises et les mûres, la maturité elle est atteinte quand le fruit se décroche sans forcer du pédoncule. Dans le pire des cas, on peut aussi goûter, ça va être très acide peut-être, mais il n'y aura aucune chance de tomber malade. Moi, je vais les manger crues en général, et puis quand je pars en ramasser, j'arrive pas souvent à en ramener jusqu'à la maison, il y a tout qui disparaît sur le chemin, je sais pas comment. Pour les baies de genévrier, ça se ramasse plutôt en octobre-novembre, quand elles sont bien mûres, bien noires. Et puis, c'est celles qui sont à la base du gin, qui est connu de tous. Mais on utilise aussi ces baies pour agrémenter une choucroute ou un pot-au-feu. Et pour finir, les baies de cornouiller, qu'on va ramasser à partir de fin août. Pour celles-ci, il suffit de se baisser pour les ramasser en bas de l'arbre. Les baies mûres, elles tombent toutes seules. Elles ont un goût sucré, acidulé, presque astringente. On peut les manger crues, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et sinon, on peut les faire en confiture, en sirop ou en liqueur.
On dit souvent que tout ce qui est rouge n'est pas forcément un dessert. Y a-t-il des confusions possibles, dangereuses, avec les baies sauvages chez nous? Et comment les éviter facilement?
Alors, effectivement, des baies toxiques, il y en a plein. Par exemple, on aurait les baies de morel ou de saut de Salomon qui vont ressembler beaucoup à du cassis ou à de la myrtille. Mais la plante, elle, n'y ressemble pas du tout. On a le fusain d'Europe ou le bonnet d'évêque. Enfin, c'est la même plante, hein, qui fait des baies qui ont une couleur qui sont alléchantes, mais qui sont plutôt à laisser aux oiseaux pour leur toxicité. Dans les baies rouges, on va retrouver la baie du chèvrefeuille, le muguet, qui sont aussi les deux mortels. Mais une fois encore, ces plantes, à part la baie, elles ne ressemblent pas aux plantes qui sont comestibles. Après, le mieux, c'est quand même de rester dans ce qu'on connaît et qu'on est sûr de reconnaître, ou de prendre des cours avec des personnes qui sont formées et compétentes dans le domaine.
Alors Jordi, il y a aussi une star de fin d'été, début automne, le sureau noir, ses fleurs, ses baies, tout est aromatique, mais il y a aussi des parties toxiques. Alors pour un amateur, quels sont les repères simples, ce qu'on peut cueillir, comment le transformer, ce qu'il faut absolument éviter ?
Alors on va commencer par ce qu'il faut absolument éviter, c'est-à-dire manger les feuilles ou les tiges ou les baies crues, qui ne sont pas mortelles, mais elles promènent une bonne indigestion et les conséquences qui en découlent. Les fleurs sont récoltées à la fin du printemps, elles servent à parfumer les eaux en été, en infusion à froid, on peut aussi en faire du sirop. Pour les baies, on va les cuire, en faire des coulis, de la confiture ou du sirop. Attention, il ne faut pas confondre le sureau noir avec le sureau yèble, qui lui est toxique. Bon, un signe qui ne trompe pas, c'est le porc. Le premier, c'est un arbuste, donc avec du bois. On parle bien du sureau noir, tandis que le second, c'est une plante qui est herbacée. On ne va pas trouver de bois dessus.
Et puis, il y a le cynorhodon, hein, la petite bombe vitaminée de l'automne. On en voit partout. À quel moment il est vraiment à maturité et comment on reconnaît un bon fruit pour la cuisine et comment on le prépare sans y passer toute l'après-midi ?
Alors, on va attendre les premiers gels pour la récolte parce que c'est ça qui finit de mûrir le fruit, on va dire. C'est des fruits qui se récoltent blais, donc tout mou comme ça. La préparation de ces fruits, elle consiste à enlever les poils contenus à l'intérieur du fruit qui sont urticants pour ne pas y passer l'après-midi. Le plus simple, c'est de les cuire, les transformer en bouillie avec un petit peu d'eau. Et puis l'étape suivante, c'est de les faire passer dans un tamis afin de retirer ces fameux poils urticants.
Les jardinières.
Les jardinières sont avec vous jusqu'à 8h en compagnie de Jordi Gonzalez. Ce matin, on a parcouru les plantes sauvages comestibles du printemps jusqu'à l'automne.
Place maintenant aux champignons, car c'est ce qu'on trouve dans la forêt en cette période des fêtes. Mais pourquoi ? Gaëlle Mona, contrôleuse de champignons, se pose aussi la question.
Savez-vous pourquoi il y a beaucoup d'amanites du mouche en période de Noël ?
Je dirais parce que c'est un champignon qui est trop mignon.
Il est trop mignon, il est joli, il a le design de Noël, effectivement. Mais ce n'est pas que, en fait. C'est que les chamans en Sibérie, ils utilisaient énormément les amanites du mouche. Ils les faisaient même sécher sur les sapins de Noël, en fait, enfin sur les sapins. Et puis pour les sécher, ils les utilisaient beaucoup dans des cérémonies. Et puis en fait, ils donnaient même des amanites du mouche aux rennes. Ils utilisaient après la viande et l'urine pour boire l'urine et manger la viande. Et du coup, on sait très bien que l'amanite tumouche est hallucinogène. Et du coup, les chamans, ils avaient des hallucinations, en fait. Et ils donnaient justement aussi la viande aux personnes. Et puis du coup, les gens, ils avaient des hallucinations à ces périodes-là. Et puis, ils voyaient du coup les rennes voler. Et c'est en fait l'histoire que pourquoi à Noël, on a un Père Noël avec des rennes qui volent. Ça vient justement des pays scandinaves.
Donc la poudre magique du Père Noël qui saupoudrerait sur les rennes est en fait de la poudre d'amanite du mouche.
On pourrait. Et puis aussi l'anecdote de pourquoi justement le Père Noël passe par les cheminées. Justement, à l'époque, il faisait des cérémonies. Il fêtait l'hiver, l'arrivée de l'hiver avec des grands feux. Et justement, il consommait ces amanites du mouches, ils avaient des hallucinations et ils voyaient au travers des flammes des choses apparaître. Donc c'est aussi pour ça qu'on suppose que le Père Noël passe par les cheminées.
Et voilà, limite s'effondre avec Gaëlle Mona. On va maintenant parler du Père Noël qui est habillé de rouge et de blanc. Les amanites tumouches aussi, est-ce que c'est une coïncidence ? Eh bien, Mylène a posé la question à Gaëlle Mona, spécialiste en champignons.
Probablement pas, parce qu'effectivement, pour les chamans en Sibérie, donc toute cette culture, on utilise beaucoup l'amanite, et elle est rouge et blanche. Et puis comme le Père Noël, c'est un mélange de plusieurs traditions, on suppose que l'habit du Père Noël est aussi en l'honneur justement des amanites tunouches. Et Mylène, une dernière question, sais-tu pourquoi on décore les sapins de Noël ?
Non, pour les rendre plus beaux.
Il y a aussi une légende, mais ça c'est des gnomes scandinaves, donc des sortes de petits lutins, où justement on faisait des offrandes à ces petits lutins, à ces périodes de Noël, enfin d'hiver, pour justement qu'ils soient gentils avec eux, puis qu'ils ne fassent pas trop de farces. Et du coup, on décorait justement les arbres autour des villages. Et probablement que c'est aussi là que ça vient qu'on décore les sapins de Noël, à Noël.
Est-ce qu'on décorait ces sapins justement avec des amanites aussi, ou d'autres champignons ?
En Sibérie, justement, ils suspendaient les amanites pour les faire sécher sur les arbres. Donc effectivement, c'est aussi pour ça qu'on retrouve beaucoup d'amanites en période de Noël. Elles étaient beaucoup utilisées à l'époque.
C'était Gaëlle Mona, contrôleuse de champignons, qui répondait à Mylène.
Les jardinières.
Pour quelques minutes encore, nous sommes en compagnie de Jordi González, notre expert du jour dans les jardinières, avec qui nous avons discuté des plantes sauvages comestibles ce matin.
Place maintenant à vos questions jardinage. Appelez-nous pour les poser à Jordi directement au 0 901 70 20 20 et vous parlerez en direct avec lui et nous. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo via le formulaire disponible sur notre site ou alors simplement nous écrire un SMS. Vous tapez « jardin », un espace, votre question et votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Jordi, on a reçu une première question par formulaire de Gabrielle de Moutier. Elle nous a même envoyé une petite photo avec sa question. Elle a reçu samedi passé 2 étoiles de Noël. Et sa question, c'est la suivante. Est-ce qu'elle peut les garder ? Comment est-ce qu'elle peut faire pour les garder le plus longtemps possible ? Comment s'en occuper ? Jordi, vous avez vu la photo en question. Est-ce que vous pouvez répondre à sa question ?
Oui, alors c'est assez simple de garder ces étoiles de Noël, il faut juste pas trop leur donner à boire, c'est des plantes qui sont fragiles par rapport à ça, elles aiment pas du tout les excès d'eau, donc faut vraiment attendre que la terre sèche bien avant le prochain arrosage, faut pas non plus que ça devienne désertique hein, la terre, mais voilà, on s'entend. Et puis ce qu'il faudrait faire, c'est aussi éviter les courants d'air un maximum, et puis si possible, il n'y a pas besoin de la mettre contre une fenêtre, il n'y a pas besoin qu'elle soit à la lumière pour cette période-là, elle est déjà en train de fleurir, donc c'est feuilles rouges, c'est des fleurs en fait. Et puis normalement, ça devrait se garder très longtemps, voire même jusqu'à l'année prochaine ou plusieurs années, quoi.
On enchaîne avec une question de Marie-Lou de Saint-Imier qui nous demande si ces rosiers en pot sur sa terrasse, vaut mieux les rentrer contre un mur, les pailler ou rien faire du tout.
Alors, pour des rosiers en pot, je dirais qu'il n'y aurait rien à faire. On peut les laisser sur place, à la limite les tirer contre un mur, ça pourrait être une idée. Ce qu'il faudrait faire, c'est enlever, s'il y a une soucoupe sous le pot, de l'enlever, ou un cache-pot par exemple, de l'enlever pour que l'eau puisse bien s'écouler pendant l'hiver et qu'il n'y ait pas d'excès d'eau au niveau des racines.
Merci Jordi. On enchaîne avec une autre question de Jonas qui nous vient de Bienne. Il nous écrit ceci. Chaque hiver, ces géraniums hivernés dans la cage d'escalier jaunissent. Il se demande ce qu'il fait de mal. Est-ce qu'elles ont trop froid, pas assez de lumière ou alors trop d'eau ?
Alors, c'est difficile à dire comme ça, mais en soi, ça pourrait être une question de plutôt trop chaud, je dirais. Dans une cage d'escalier, il fait quand même entre 15 et 16 degrés. Il n'y a peut-être pas assez de lumière et trop de chaleur par rapport à la lumière. Ça pourrait être un excès d'eau aussi, sachant qu'en hiver, les géraniums n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ou le mieux, c'est de les tailler un petit coup avant l'hiver, pas trop fort, de les mettre à hiverner dans un endroit clair, lumineux, qui est quand même relativement froid, on va dire entre 2 et 10 degrés maximum, de leur donner à boire plus ou moins une fois toutes les 2 semaines, et puis de les tailler un bon coup à la sortie de l'hiver pour qu'ils puissent redémarrer, en leur mettant un petit peu d'engrais aussi.
Encore un petit message de Barbara de La Chaux-de-Fonds qui nous écrit « J'ai acheté des bulbes de jacinthe forcés pour offrir à Noël, où je les garde d'ici là pour éviter qu'ils fleurissent trop tôt ?»
Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut les mettre peut-être un peu au frais pour pas qu'ils fleurissent trop tôt. Donc, dans le garage, par exemple, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait beaucoup de lumière. Il ne faudrait pas qu'ils gèlent parce que sinon, les fleurs vont faner, c'est sûr. Et puis, s'ils ont été forcés, il faut savoir qu'ils veulent fleurir. Donc, ils vont forcément fleurir. On peut plus faire grand-chose à ce moment-là.
7h, 8h. Les jardinières.
Ce matin, on a passé en revue les plantes, fleurs et fruits sauvages comestibles que l'on retrouvera dès le printemps, comme les orties, l'ail des ours, le pissenlit, le sureau, la bourrache ou encore les baies sauvages. Vous retrouverez tous les conseils de Jordi González en cours de matinée en podcast sur notre site.
Allez, dernière question pour la route Jordi. Si nos auditrices et auditeurs veulent profiter d'un rayon de soleil ce week-end, quelles seraient selon vous les 3 plantes sauvages qu'on peut encore observer sans les cueillir, mais qu'on peut déjà commencer à apprendre à reconnaître?
Alors, on aurait le sureau qui n'a pas forcément perdu toutes ses feuilles, donc on peut déjà commencer à essayer d'apprivoiser. On aurait les baies comme les fraises, framboises de forêt. Par-ci, par-là, on va en retrouver qui auront toujours des feuilles, donc qu'on va pouvoir reconnaître. Les pissenlits, s'ils ne sont pas sous la neige, on va pouvoir les voir et les observer aussi. Suivant où ça peut arriver qu'il y ait encore des fleurs. Ou par exemple, contre un mur, un endroit bien protégé, on va encore pouvoir observer des bourraches.
Et Jordi, si quelqu'un veut se lancer justement dans la récolte des plantes sauvages, quels conseils peut-être leur donneriez-vous avant de débuter ?
Alors moi, je conseillerais d'acheter déjà un bon livre pour bien se renseigner. Et puis, si possible, c'est vraiment très recommandé de prendre un cours avec un ou une professionnelle du domaine. C'est des savoirs qui sont très... Il y a une grosse masse à savoir et il y a ces risques de confusion. Il faut savoir quand même qu'il y a pas mal d'intoxications qui sont possibles et il ne faut pas les prendre à la légère. Ça peut être vraiment mortel.
Merci Jordi pour vos précieux conseils et votre présence ici dans les jardinières. On le rappelle, vous êtes horticulteur au Jardin des Senteurs à Neufchâtel. On vous souhaite un bon week-end.
Merci, bon week-end à vous aussi.
La semaine prochaine, pour répondre à vos questions et vous donner de bonnes astuces, nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Vous avez toute la semaine pour nous faire parvenir vos questions en remplissant le formulaire sur notre site. Bon week-end Léo et à la semaine prochaine.
Bon week-end Noélie et bon week-end à vous toutes et tous.
7h, 8h, les jardinières.